C'est le retour des apatrides anonymes sur choc.ca en ce 18 avril 2024. Après une petite pause de deux semaines, on a sauté un deux semaines finalement. Marie-Ève au micro pour vous guider d'un sujet à l'autre tout au long de cette édition. Je suis évidemment en compagnie, en la charmante, que dis-je, compagnie de Simon, hein, qui assure la mise en onde pour le moment.
Très charmante. Salut tout le monde.
Et de Mathieu, qui est à mes côtés en studio.
Tourlou.
Bon, ben pour celles et ceux qui sont pas encore des fidèles des Apatrides anonymes, on vous présente chaque deux semaines les actualités nationales et internationales qui touchent à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers, aux enjeux autochtones et plus encore. On vous fait aussi découvrir de la musique. Et aujourd'hui, ben on a un menu bien copieux. Avec un premier segment de Mathieu et moi sur les actualités autochtones et toujours sur la scène nationale et provinciale, Simon va y aller d'une sélection de nouvelles en immigration. À l'international, on va faire un tour en Afrique subsaharienne. On va aussi parler de quelques pays européens comme la France et l'Espagne. Mais la pièce de résistance, c'est quand même la toujours excellente Minute coloniale concoctée par Simon.
On verra si elle sera excellente.
Ça fait longtemps, en tout cas.
Oui.
Ça fait longtemps. Oui.
Alors, je vous invite à rester à l'écoute parce que dès l'autre côté de ce petit segment musical, on commence tout ça. Alors, je commence ce segment consacré aux actualités autochtones avec deux nouvelles qui touchent au système judiciaire et à la répression. D'abord au Manitoba, dont Mathieu, paraît-il, va nous parler aussi plus tard. Deux hommes déclarés coupables à tort de meurtre poursuivent trois ordres de gouvernement en justice. Il s'agit de Brian Anderson et Alan Woodhouse, qui sont de la première nation Pinaymutang, qui est au nord de Winnipeg, qui avait été condamné à la prison à vie alors qu'ils étaient adolescents pour le meurtre de Ting Fong Chan, un employé de restaurant poignardé près d'un chantier de construction à Winnipeg en 1973. Les deux hommes clament leur innocence depuis des décennies et ont tenté sans succès de faire appel de leur condamnation devant les tribunaux supérieurs. Brian Anderson, lui, a purgé près de 11 ans et a enfin obtenu une libération conditionnelle totale en 1987. Et Alan Woodhouse, lui, a purgé 23 ans de prison. Le juge en chef Glenn Joyal de la Cour du Banc du Roi, et oui, ça existe encore, a acquitté messieurs Anderson et Woodhouse l'année passée après que le ministère fédéral de la Justice, à ce moment-là, David Lametti, a ordonné un nouveau procès en citant de nouvelles preuves, mais sans les préciser. On dirait que c'est un...
Ouais, c'est ça.
Lors de l'audience, la couronne a demandé un acquittement, affirmant que le racisme systémique avait orienté l'enquête et les poursuites. Le gouvernement provincial a également déclaré qu'une erreur judiciaire avait eu lieu. C'est que les condamnations de ces deux hommes-là reposaient en grande partie sur des aveux signés qu'ils avaient faits à la police. Aveux qui sont finalement révélés avoir été obtenus sous la contrainte dans un cas et sur la base de fausses informations dans l'autre. Et donc, au début du mois, ben ils ont déposé des poursuites distinctes à l'encontre du gouvernement du Manitoba, du procureur général du Canada et de la ville de Winnipeg. Les poursuites allèguent que les deux hommes ont été, et je cite, « condamnés à tort en raison du racisme, des stéréotypes racistes et de la discrimination raciale dans le système de justice pénale », fermez les guillemets. Aussi à cause que les droits de la personne garantis par la Charte ont été violés et que les policiers et le procureur de la couronne de l'époque ont rien de moins que conspiré pour les mettre derrière les barreaux. Ils demandent donc un montant indéterminé là, en guise de réparation du préjudice physique, émotionnel et psychologique. On se tourne vers un autre organe responsable d'abus divers, et je parle de la GRC, plus particulièrement de son groupe d'intervention pour la sécurité et la collectivité de l'industrie, qui a été mis sur pied en 2017 pour, et je cite, « assurer une surveillance stratégique des incidents dans le domaine de l'énergie », entre parenthèses, gazoduc et oléoduc. Bref, une force de sécurité publique mise au service d'intérêts privés. Le groupe d'intervention devait être temporaire, mais il a grandi rapidement. Hein. En 5 ans, il a dépensé 50 millions de dollars pour ses diverses opérations. On en a surtout entendu parler pour sa répression de la lutte des Wet'suwet'en en Colombie-Britannique contre le gazoduc Coastal GasLink, ou encore lors de celle des opposants à l'exploitation des forêts de Fairy Creek sur l'île de Vancouver, deux dossiers dont on vous a parlé souvent. Et donc, preuve que son travail a été exemplaire, le groupe d'intervention est visé par des plaintes, des poursuites, des allégations de violation des droits civiques et autochtones, ainsi que par une enquête du gouvernement fédéral. La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC a reçu plus de 100 plaintes officielles demandant une enquête sur le groupe d'intervention, principalement pour des événements survenus, comme je le disais, à Fairy Creek. Cette commission-là a ouvert une enquête systémique, d'ailleurs, en 2023. Et donc, est-ce que la GRC prend acte de ses erreurs et change ses façons de faire?
Pas vraiment.
Ben non, elle change de nom du groupe d'intervention et élargit son mandat. Alors, une sorte de greenwashing appliqué aux forces de l'ordre. Donc, depuis le 1er janvier, c'est au groupe d'intervention, en cas d'incident critique de la Colombie-Britannique, que les défenseurs du territoire vont avoir affaire. Sur le site web de la GRC, on peut lire ceci à propos du mandat du groupe. Le groupe continuera de participer aux activités d'ordre civil et public en cas de catastrophe d'origine naturelle, humaine, d'effectuer une mobilisation proactive et au besoin de s'acquitter de tâches d'application de la loi propre à un incident critique.
Donc, en cas de tempête de neige, ça va être très utile.
Ouais. Tout va bien, Madame la Marquise.
Fait que pas de formation, pas de superviseur d'ombudsman, rien.
Non.
Oh, ben, Seigneur.
Non.
OK. Ben, les poursuites continuent pareil, hein?
Ben oui.
Ouais.
C'est à ton tour, mon cher.
Oui, ben, on va revenir au Manitoba quelques secondes, quelques minutes. Enfin, on dirait un peu partout dans les chaumières, particulièrement autochtones au Manitoba, le Manitoba et le gouvernement fédéral vont consacrer chacun 20 millions de dollars pour fouiller la décharge de Prairie Green à la recherche des corps de femmes des Premières Nations victimes d'un présumé tueur en série.
Enfin,
c'est ce que je disais. Il y a un an, la police a déclaré qu'elle pensait que les dépouilles de Morgan Harris, 39 ans, et de Mercedes Marin, 26 ans, avaient été déposées à la décharge de Winnipeg. Le fédéral débloquera également 200 000 $ pour un soutien à la santé mentale tenant compte des traumatismes et de la culture pour la durée du procès. Au début du mois, après que des centaines de manifestants se furent joints au chef des Premières Nations devant l'Assemblée législative du Manitoba pour demander à la province d'agir, le premier ministre Kinew a annoncé l'octroi d'une aide de 500 000 $ aux familles des victimes pendant le procès qui se tiendra le mois prochain. Et là, c'est un 20 millions chacun, fédéral et provincial. En effet, la fouille de ce dépotoir était une promesse de campagne de Webb Kinew lors des dernières élections provinciales de l'automne dernier. Il n'y avait rien fait depuis ce temps-là. Le procès du tueur en série présumé, Jeremy Skibicki, qui a plaidé non coupable, aura lieu entre le 29 avril et le 6 juin. Donc, ça commence très bientôt.
Très bientôt, hein.
Ouais. Dans le même ordre d'idée, deux projets lancés aux deux extrémités du pays pourraient inspirer le gouvernement fédéral à s'engager à mettre en œuvre des outils à l'échelle nationale pour lutter contre les disparitions de femmes autochtones. Un exemple, Jennifer Jesty, une Mi'kmaq d'Escassoni, est à l'origine d'un système d'alerte qui permet d'entrer en communication avec les membres de 5 communautés du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Elle n'oubliera jamais la première alerte qu'elle a envoyée qui a permis à une famille de retrouver sa fillette 45 minutes plus tard.
Et puis,
la police avait reconnu que ça leur aurait pris 24 heures pour faire le même travail avec leurs effectifs et tout et tout. À l'heure actuelle, plus de 4000 personnes sont inscrites dans ce système d'alerte et vivent dans 5 communautés autochtones et non-autochtones, donc sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Les messages envoyés sont rédigés en anglais et en Mi'kmaq. Au total, 167 alertes ont été envoyées depuis 2021 et 67 concernaient des personnes disparues. Les autres alertes portaient sur des avis de faire bouillir l'eau, sur des embouteillages routiers ou encore sur la présence de suspects qui cherchaient à recruter des jeunes femmes pour les faire travailler dans des réseaux de prostitution.
Aussi, c'est ça.
Exactement, c'est ce genre de truc un peu communautaire. Sinon, du côté de la Colombie-Britannique, deux projets pilotes sont envisagés, l'un en zone urbaine, Vancouver, Victoria surtout, l'autre le long de l'autoroute des Larmes. Ce tronçon de 720 km a été le théâtre de nombreuses disparitions et de meurtres non élucidés, de femmes dont plusieurs sont autochtones. Pour sécuriser cette route, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait d'ailleurs annoncé en mars 2023 une enveloppe supplémentaire de 75 millions de dollars. L'idée consiste à installer une vingtaine de panneaux le long de cette route pour afficher les visages de femmes autochtones disparues. Grâce à une application, les gens qui ont des informations au sujet de ces femmes pourraient les transmettre de façon anonyme en scannant un code QR affiché sur les panneaux.
OK.
Ouais. Le Canada réfléchit à la création d'une alerte robe rouge spécifiquement réservée aux femmes autochtones disparues pour l'ensemble du pays. Des consultations pour la création d'un tel système d'alerte pan-canadien ont débuté le 1er décembre 2023 à Ottawa. C'est la députée néo-démocrate Lee Gazin qui porte le dossier. Et aussi, voulez-vous dire qu'il y a un dossier sur l'espace autochtone actuellement qui s'appelle « Les femmes autochtones sur tous les fronts » qui parle de différents enjeux positifs, négatifs, triste, plus encourageant aussi. Donc, c'est sur le site de Radio-Canada, ça s'appelle « Les femmes autochtones sur tous les fronts ». Et si j'ai 2 minutes pour terminer un autre petit sujet, un membre de la communauté Cree d'Attawapiskat, à l'ouest de la baie-James, a déposé une plainte auprès de l'ONU pour faire pression sur le gouvernement fédéral pour alerter les instances internationales et rappeler au Canada ses obligations. Elle a rédigé, avec l'aide d'un avocat, un document de 500 pages destiné au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Cette énorme tâche lui a pris environ 3 ans. Charles Okimar demande notamment à l'ONU de reconnaître l'incapacité du Canada à répondre aux défis concernant l'eau potable, alors que le Canada demande d'obtenir un siège au sein du Conseil des droits de l'homme actuellement. Charles Okina exige aussi une solution à long terme pour Attawapiskat, car il estime que le processus en place dans sa communauté ne résout pas les problèmes d'accès à l'eau potable. Dans les années 90, le gouvernement canadien a commencé à construire des infrastructures pour avoir de l'eau courante dans les maisons de la réserve, mais, je le cite, nous savons que nous ne pouvons pas boire cette eau car elle n'est pas vraiment saine ni propre.
Non, c'est ça. Je pense qu'ils continuent avec des camions citernes encore.
C'est ça. Ils peuvent se laver avec, mais pas la boire. Les membres de la communauté doivent donc se rendre aux 2 stations pour remplir leurs bidons qu'il y a autour de la réserve.
C'est ça.
En juillet 2019, le conseil de bande a déclaré l'état d'urgence en lien avec l'eau. Sur le site du gouvernement fédéral, Attawapiskat ne figure pas parmi les 26 communautés concernées par les 28 avis sur la qualité de l'eau potable à long terme parce que leur eau est considérée pas si pire que ça.
Oh,
fait qu'il y en a plus dans les faits que les 26 communautés pour les 28 avis. Fin 2023, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Adjou, présentait un projet de loi pour améliorer la qualité de l'eau dans les communautés du pays. En vertu de ce projet de loi, les communautés auraient un mot à dire sur la gestion de l'eau potable et l'établissement des normes, mais il n'est toujours pas adopté actuellement. Mm. En terminant, à la mi-février, Service aux Autochtones Canada et le Conseil de bande ont convenu d'un investissement de 1,9 million de dollars supplémentaires pour répondre aux préoccupations immédiates concernant la qualité de l'eau. Mais là, c'est encore des bidons, des camions, puis des affaires temporaires. Donc, autre dossier dont on a souvent parlé, l'eau potable dans les communautés autochtones, mais ça continue.
Ouais, un autre dossier qui ne finit pas de ne pas se régler.
Exact.
Alors, on va s'en aller en musique et je vous dis ce dont il s'agit au retour. vient d'écouter la pièce Inugami. Là, je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est tiré du deuxième album, du volume 2, en fait, de la compilation Aegic. Ça non plus, je ne sais pas si je le prononce comme il faut.
Je te corrigerai pas.
C'est un projet international collaboratif entre plusieurs artistes inuits du Nunavut et du Groenland. La pièce qu'on a entendue est de l'artiste Qiyapit, ou encore son nom blanc, disons, c'est King James, de la nation Kalaallit. Ça non plus, ce sont tous des mots dont je ne connais pas la prononciation.
J'ai passé une toune de la même compilation il n'y a pas longtemps.
Exact.
C'était un très bon exercice de diction.
Exact, c'est ça. Puis ça a été enregistré en Islande, ce truc. En tout cas, c'est une très belle collaboration. La compilation est en 29e position du palmarès international de Choc. On traverse maintenant en France, à la frontière avec l'Espagne, où, comme chaque année, a lieu la course Corica dans le Pays basque, qui vise à célébrer la culture basque et sa langue, l'euskara. Cette année, cette course, en plusieurs étapes à relais étalées sur 10 jours, a été marquée par un événement assez spécial. Une vingtaine d'associations, syndicats et partis politiques ont posé un acte de désobéissance civile en coordonnant le passage par 36 jeunes migrants et migrantes de la frontière franco-espagnole. Oh. Pendant cette marche, les exilés avaient enfilé leur dossard pour se mêler aux participants et participantes. Tout s'est passé lors de la première étape du parcours le 14 mars qui relie les villes frontalières de Irún et de Hendaye, qui est la première qui est du côté espagnol puis la seconde du côté français, et qui sont séparés par le fleuve Bidasoa. Donc, l'action a été revendiquée une dizaine de jours plus tard dans un communiqué de presse pour s'assurer là, que les exilés, évidemment, puissent poursuivre leur route sans se faire intercepter par les autorités. Certains des exilés avaient pour destination différentes villes de France et d'autres se sont rendus au centre d'accueil de migrants POSA à Bayonne pour demander l'asile directement là. Et donc, pour rejoindre Bayonne, après l'arrivée de l'étape à Hendaye, les coordinateurs de l'action avaient organisé des déplacements en véhicule. Dans leur communiqué commun, comme je le disais, les associations revendiquent un acte de désobéissance civile. Je rappelle que l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier constitue en effet un délit dans la loi française. Sauf qu'il ne peut pas y avoir de poursuite s'il n'y a pas de contrepartie directe ou indirecte, ou que l'aide est apportée dans un but exclusivement humanitaire.
Et ça a marché.
Ça a marché, ça. Wow. Tant que ça a marché. L'action avait aussi pour but de dénoncer les contrôles aux faciès et les pushbacks qui sont monnaie courante à cette frontière-là, avait aussi pour but de dénoncer le pacte migratoire européen qui vient d'être adopté, qu'on va sûrement vous parler dans une prochaine émission, et aussi la nouvelle loi immigration française. Alors là, on va rester dans le domaine des sports pour la tant attendue Minute coloniale.
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. En l'an de grâce 2024, se tiendront dans la ville Lumière, Paris, véritable phare de la chrétienté occidentale, les 33e Olympiades d'été. L'occasion pour nous, humbles brebis effarées, de rendre hommage au père des Jeux olympiques de l'ère moderne, le grand visionnaire Charles-Pierre de Frédy, baron de Coubertin, qui prônait santé, vitalité, ainsi qu'une jeune et affriolante musculature masculine couverte de sueur. Le bon Charles-Pierre affirmait avec acuité qu'une Olympiade femelle serait inesthétique. En effet, jamais l'âme pure du baron ne put concevoir que le sexe faible, dont selon lui l'organisme n'est pas fait pour supporter certains chocs, mais plutôt pour couronner les vainqueurs mâles, bref, loin de lui l'idée que nos petites dames puissent un jour fouler le sable chaud du stade, spectacle grotesque que le Comité international olympique, 3 ans après qu'il en eut quitté la présidence, autorisa en 1928. Comment eût-on pu en effet ignorer les préceptes de ce sage parmi les grands humanistes qui déclara aussi qu'à la race blanche d'essence supérieure, toutes les autres doivent prêter allégeance? De Coubertin, qui se décrivait lui-même comme un colonialiste fanatique, affirmait que le sport était un instrument utile de disciplinisation des indigènes. Malgré tout, de mauvaises langues lui prêtent quand même des sympathies nazies, alors qu'il ne fut que simple victime des opérations séduction entreprises par le Troisième Reich lors des Jeux de Berlin qu'il qualifia de grandioses. Ce qu'ils furent, n'en déplaise aux adeptes du révisionnisme historique dit éveillé. Heureusement, devant tant de fallacieuses calomnies, réparation il y aura, puisqu'un vibrant hommage sera rendu au petit Charles-Pierre le 23 juin prochain à la Sorbonne, là où exactement 130 ans plus tôt, il inaugura l'ère moderne des Jeux olympiques, y réaffirmant ses aspirations de paix et d'amour pour l'humanité. C'était la Minute Coloniale présentée par les Apatrides Anonymes.
Eh bien, Simon, j'imagine que tu as plus d'informations pour nous, pauvres brebis effarées.
Ben bien sûr, puisque ben Pierre de Coubertin, ben c'est vrai qu'il y aura un hommage qui va lui être rendu à Paris bientôt. Pendant les Jeux de Paris cet été, mais tout le monde est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Même Macron, qui n'est pas nécessairement l'incarnation du progressisme, il a exprimé qu'il il a dit qu'il irait pas. Peut-être qu'il va envoyer son charmant premier ministre et son joli petit chien.
On sait pas.
Donc, entre-temps, il y a plein de monde, dont des fondations, sa descendance qui essaie de réhabiliter de Coubertin, parlant comme d'habitude de citations hors contexte où l'Éternel, c'était un homme de son époque, mais bon, il y a tellement d'écrits qui sont disponibles, il y a même des enregistrements audio, donc c'est très difficile de le mettre dans le club des mal cités. Il était vraiment misogyne et très raciste, mais on peut aller par exemple dans le site du CIO, du Comité international olympique, où il y a une longue biographie de Pierre de Coubertin, très élogieuse et qui dans lequel il y a aucun élément raciste ou misogyne qui sont évidemment qui apparaissent là. C'est d'ailleurs le propre des Olympiques d'être très, très propre. En témoigne ce ménage ethnique et social qu'on vit à Paris actuellement depuis quelques mois et c'est pas fini. Paris et ses environs, depuis que la ville s'est fait octroyer les Jeux il y a quelques années, les hôtels sociaux qui ferment les uns après les autres, qui abritent des réfugiés, souvent des femmes avec des jeunes enfants qu'on déplace le plus loin possible, souvent même en province, là, jusqu'à Strasbourg, Lille, en tout cas le plus loin possible.
Ouais.
Les squats, les campements qu'on démantèle encore plus sauvagement et rapidement, les autorités ont même tenté de fermer des points de distribution de nourriture dans plusieurs quartiers parisiens, décision qui a été rejetée en cour finalement. Beaucoup d'associations regroupées dans le collectif Le Revers de la Médaille sonne l'alarme. Il y a Médecins du Monde, il y a l'Armée du Salut là-dedans. Quant à la dégradation de la situation des personnes vulnérables dans la capitale, il y a distribution record de contraventions pour les petits vendeurs de rue, une intensification de la judiciarisation de l'itinérance. Il y a même les bouquinistes à qui on demandait de dégager, mais finalement, après s'être battus, ils vont pouvoir rester sur les quais de la Seine. Il y a les tarifs dans les hôtels et les loyers en explosion totale, les tarifs de transport en commun qui vont augmenter considérablement. Il y a l'accélération des expulsions de logements privés par les propriétaires qui flairent la bonne affaire pour favoriser une genre de Airbnbisation encore plus accentuée de Paris. On demande même aux Parisiens de quitter la ville pendant les Jeux, rien de moins, ils sont chez eux pourtant même. On dépense sans compter. On disait que ça coûterait 4,5 milliards d'euros. La facture a récemment été révisée à 12 milliards d'euros. On promet n'importe quoi comme l'eau de la Seine assez propre pour y tenir des compétitions de natation, de triathlon et autres. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont manifesté un certain doute et qui remettent en question même leur participation au jeu. Je finis avec le très nauséabond débat sur la participation de Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture.
La chanteuse
française d'origine malienne qui est très populaire dans le monde entier. Pour la moitié de la France, elle serait pas assez française pour représenter le pays. Il y a Sébastien Chenu du RN, vice-président de l'Assemblée nationale, qui disait qu'il aurait préféré Lara Fabian, qui pourtant n'est pas française, mais belgo-canadienne. Donc, aucune gêne de dire publiquement qu'il préfère une arienne non-française à une française non-arienne, alors que la France, comme ici ou comme les États-Unis, c'est extrêmement métissé depuis des générations.
Ben oui.
que Mais l'apport des pays maghrébins, subsahariens plus particulièrement, ça fait partie intégrante de l'identité française, de son ADN, que ça nous plaise ou non. Et là, comble de l'horreur, Madame Nakamura, dans son français qui n'en serait pas un, veut interpréter une des plus grandes icônes de la culture populaire, Édith Piaf. Sacrilège. Donc, je vais citer le chanteur Benjamin Biolay. Ces vieux boomers réac et racistes et nous font chier. Mais je vais laisser le dernier mot à Aya Nakamura, un extrait de la pièce Doggy. Je vais essayer de faire mon meilleur flow, là. J'ai pas d'ennemis, moi, c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Voilà.
Que dire de plus?
Ben oui, la France, elle est belle.
Merci, Simon. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca, subwoofer dans les oreilles avec les apatrides anonymes. Ouais, on revient maintenant sur les questions migratoires, particulièrement sur les routes de l'exil. Selon le plus récent rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, paru en mars, plus de la moitié des personnes migrantes ayant perdu la vie sur les routes de l'exil ces 10 dernières années sont mortes en mer. Depuis 2014, au moins 36 000 décès ont été recensés lors de naufrages sur un total de 63 000 morts partout dans le monde. La traversée de la Méditerranée vers l'Europe demeure sans surprise la route la plus meurtrière avec 27 000 migrants qui y ont péri en 10 ans. L'année 2023 a été, elle, une période de record avec la mort de 8 500 personnes sur les routes de l'exil dans le monde. Terrestre comme maritime, et puis dont plus de 3000 en Méditerranée seulement. Un chiffre jamais atteint depuis 2017. Et jusqu'à présent, ben là, l'OIM a prévenu que les chiffres de 2024 ne seraient pas plus rassurants. En ce qui concerne la route de la Méditerranée, le nombre de décès était presque aussi élevé que l'an passé à la même période. L'OIM a déjà compté près de 450 morts dans cette zone maritime-là depuis janvier. Je rappelle que, et aussi que tous ces chiffres-là pourraient être encore beaucoup plus élevés en raison de la difficulté de collecter des données fiables. Le nombre de ces personnes qui sont mortes dans des naufrages collectifs. Nombreuses sont les personnes qui sont mortes dans des naufrages collectifs et leurs corps n'ont pas été retrouvés. En effet, plus des deux tiers des personnes dont le décès a été documenté dans le cadre du projet Missing Migrants de l'ONU n'ont pas pu être identifiés. Une situation qui, Simon et Mathieu et moi, on a souvent parlé de ça aussi, une situation qui est douloureuse pour les familles. Autre enseignement du rapport, plus d'un migrant sur trois dont l'origine a pu être identifiée venait d'un pays en guerre. Alors, dans un tel contexte, certains agissements d'autorités maritimes sont d'autant plus condamnables. Je parle de bateaux percés au couteau et de manœuvres dangereuses, des tactiques qui étaient déjà décrites par les personnes migrantes au large de la Tunisie ou de la Libye, et que là, les forces de l'ordre françaises auraient commencé à utiliser dans la Manche pour dissuader les migrants et les migrantes d'atteindre les côtes britanniques. C'est en tout cas ce que révèle une enquête du journal Le Monde qui a été menée en collaboration avec le consortium de journalistes Lighthouse Reports, dans une série de vidéos et de documents confidentiels. Le collectif de journalistes a pu recenser 4 cas d'interception en mer depuis juillet 2023. Dans l'une des vidéos récupérées par Le Monde et datée du 9 octobre, on observe par exemple un semi-rigide de la police nationale dans le port de Dunkerque qui fait des vagues autour d'un small boat pour le déstabiliser, un procédé qu'on a aussi beaucoup observé puis qui a été dénoncé d'ailleurs là chez les gardes-côtes grecs en mer Égée. Toujours selon Le Monde, le parquet de...
Parce que légalement, ça les... tu sais, comme il n'y a pas de crime là-dedans, ils ont juste navigué autour d'un bateau.
C'est ça. Ben, en même temps, l'affaire, c'est que oui, il y en a un, c'est pas un crime, entre guillemets, comme tel, mais l'usage, ou en tout cas la doctrine maritime, ce qu'il a dit, c'est que dès que t'as le pied sur la mer, c'est de sauver des vies qui est la priorité.
Il y a un code, là, quand même.
Oui, c'est ça. Et donc, toujours selon Le Monde, le parquet de Boulogne-sur-Mer a été chargé de mener une enquête préliminaire à la suite du signalement d'un garde-côte douanier à propos des agissements d'un gendarme. Au mois d'août, le gendarme en question aurait demandé à un membre d'équipage de la Société nationale de sauvetage en mer de l'aider à percer le bateau au large de la plage de un bateau, pardon, au large de la plage de Berck-sur-Mer, ça c'est dans le Pas-de-Calais, bateau dans lequel il y avait une dizaine de personnes, ce que le garde-côte aurait refusé de faire. Et je termine en rappelant que depuis 2023, il y a 24 personnes qui sont décédées par noyade dans la Manche, selon la préfecture du Nord. Et puis même si plusieurs facteurs là sont en cause, dont bon les conditions météorologiques, l'utilisation de matériel nautique de mauvaise qualité ou encore les canaux surchargés, ben les associations d'aide aux migrants pointent aussi du doigt le harcèlement des exilés par les forces de l'ordre qui les poussent à prendre toujours plus de risques. Alors voilà, Simon, je mets la table pour toi.
On traverse l'Atlantique en espérant qu'il n'y ait pas de garde-côte français autour de nous. C'est c'est odieux, c'est dégueulasse. Ouais. Donc, je ne parlerai pas de... On revient au Québec, en fait. Là, je ne parlerai pas de référendum. C'est un mot qu'on a beaucoup utilisé dernièrement, celui sur l'immigration brandi comme une menace par Legault, ce qui nous plongerait dans les bas-fonds intellectuels pendant quelques mois, un peu comme pendant la psychose des accommodements raisonnables. J'imagine le climat social horrible que ça pourrait créer. Je ne parlerai pas non plus du référendum sur la souveraineté que Paul Saint-Pierre Plamondon va organiser très bientôt, là, bien sûr.
Il est en furie.
J'en parlerai pas parce que c'est un peu dans le cadre d'un délire psychotique et il faut pas rire de ça.
Non.
Je ne parlerai pas non plus d'une toute récente étude de l'Office québécois de la langue française dont le titre est « Langue de l'espace public en 2022 » qui, en gros, nous brosse un portrait plutôt rassurant de la situation du français au Québec et à Montréal, mais qui, bizarrement, n'a pas du tout fait les manchettes chez les croque-mitaines nationalistes. Mais j'aimerais ça y revenir peut-être dans une prochaine émission, parce que c'est vraiment c'est important quand même. Premier vrai sujet, donc, le regroupement familial pour lequel la ministre québécoise de l'immigration était poursuivie en raison des très longs délais de traitement des dossiers. On apprenait début avril que la procédure judiciaire a été abandonnée par l'avocat en immigration Maxime Lapointe. Beaucoup de dossiers, pardon, dont celui qu'il représentait, ont finalement débloqué. Mais la ministre n'est pas pour autant contente, l'est-elle parfois? Parce que le gel du fédéral qui empêchait les dossiers en regroupement familial de débloquer, ça permettait à Québec de rester à l'intérieur de ses propres cibles en immigration. 10 000 par année dans cette catégorie. Et on parle de personnes qui avaient déjà obtenu le certificat de sélection du Québec. Je ne sais pas si vous me suivez. En gros, la lenteur du fédéral retenait assez de cas dans les mailles de sa bureaucratie pour ne pas dépasser les seuils convenus par Québec. Donc, si je comprends bien, Québec délivrait plus de certificats de sélection que ce que prévoyaient ses propres objectifs et quand Ottawa arrive finalement à suivre la cadence et à donner la résidence aux immigrants sélectionnés par Québec, la ministre crie à quoi? À l'ingérence. Je tiens à rappeler qu'on était à 34 mois d'attente au Québec contre 12 dans le reste du Canada. L'écart a peut-être rétréci un peu dans les dernières semaines. On va quand même souhaiter à Mme la ministre de voir le côté positif de l'abandon de la poursuite contre sa personne. Un autre dossier judiciarisé à Québec, une saga interminable, l'accès aux services de garde pour les enfants de parents en attente de statut. Le gouvernement Legault avait décidé de saisir la Cour suprême pour renverser une décision de la Cour d'appel du Québec qui jugeait discriminatoire l'exclusion de ses enfants dans nos services de garde. Legault demandait un sursis en attendant que la Cour suprême rende une décision, ce qui, on le sait, peut prendre des mois et plus. Le sursis a été refusé, donc pour l'instant, la décision de la Cour d'appel est maintenue. Et sur présentation du permis de travail, les parents demandeurs d'asile peuvent faire une demande en service de garde subventionnée pour leurs enfants d'âge préscolaire. Toujours dans le cadre de l'accès aux services, on apprenait que les victimes de violences conjugales qui bénéficiaient gratuitement de services d'interprètes ne sont plus remboursées depuis le 31 mars. Le programme Accessibilité aux services d'interprétariat pour les femmes immigrantes, réfugiées et à statut précaire, le ASIFI, qui est un réseau de banques d'interprètes qui dessert 36 maisons d'aide et d'hébergement, sa demande de renouvellement de subvention a bien été reçue par le ministère de l'Immigration depuis des mois. Mais les fonds du ASIFI sont maintenant épuisés. On est donc dans une situation de bris majeur de services. Le projet, qui est pourtant associé à plein d'initiatives gouvernementales, depuis 2021, c'est plus de 2400 heures d'interprétariat dans des moments extrêmement difficiles pour les femmes immigrantes.
Mais c'est ça, c'est que c'est essentiel.
On est dans des cas urgents. On peut pas dire, ben faites une demande ou attendez que la bureaucratie débloque. Là, c'est là qu'il faut des services d'interprétariat. Donc, très difficile pour les femmes qui ont besoin de ces services-là. C'est ça, on voyait, je disais dans certains articles que les femmes immigrantes sont surreprésentées dans les cas de violence conjugale, les femmes à statut précaire aussi. Donc, vivement que le MIFI de Mme Fréchette sorte, c'est une femme en plus, elle devrait peut-être sentir l'urgence, qu'elle sorte de son silence et arrive avec un financement, pas juste pour l'année à venir, mais récurrent pour pour les années subséquentes. Du provincial, on passe au fédéral. L'imposition de visa pour presque tous les ressortissants mexicains, sauf les étudiants et travailleurs saisonniers. Évidemment, visa imposé par Ottawa fin février, ça a provoqué toutes sortes de réactions, dont une déclaration conjointe du Comité pour les droits humains en Amérique latine et du Centre pour les travailleurs migrants. C'est disponible en ligne en français. Le titre est « Déclaration concernant l'imposition d'un visa canadien aux Mexicains et Mexicaines ». On y parle de l'impact sur les personnes en quête d'un refuge et d'une nouvelle vie. On évoque le rôle important du Canada dans la situation économique et sociale actuelle au Mexique en tant que partenaire commercial de premier ordre. On met en cause notamment l'industrie minière canadienne, à qui, ça je ne savais pas, 74 % des concessions d'exploration minière au Mexique lui appartiennent.
Oh, quand même!
Quand même!
Je ne pensais pas que c'était si élevé.
C'est la grande majorité des concessions minières mexicaines appartiennent à des intérêts canadiens. Donc, cette industrie rend la vie impossible à des centaines de milliers de Mexicains, avec des cas récurrents de dépossession, expropriation, de violence, de contamination des milieux, des problèmes de santé que ça engendre. On rappelle aussi le rôle de conseiller militaire du Canada dans la stratégie de guerre à la drogue au Mexique, qui a provoqué plus de 400 000 morts et disparus, probablement beaucoup plus, sans compter les victimes collatérales et les déplacements internes. On évoque dans la déclaration plein d'autres enjeux, donc je vous invite vraiment à la lire et même à la signer en votre nom personnel ou au nom d'une organisation. Vous pouvez la trouver sur alter.québec ou sur le Comité des droits humains d'Amérique latine, cdhal.org. Pour ce qui est du sommet des trois amigos prévu au Québec incessamment, on est un peu dans le flou, j'ai aucune idée s'il va se tenir. Obrador menaçait de le boycotter, mais finalement, le gouvernement mexicain a décidé de ne pas sanctionner le Canada, probablement parce que politiquement, Ottawa et Mexico auront probablement besoin d'être alliés advenant à la réélection de Trump en novembre prochain. Donc, c'est pas le temps de devenir frères ennemis.
Non.
Dernière nouvelle, aussi triste que peu médiatisée, deux migrants sénégalais de 25 ans retrouvés morts par un chien pisteur fin mars, quelques jours après leur décès par hypothermie, ensevelis dans la neige dans l'État de New York, à quelques mètres de la frontière canadienne, au niveau d'Hemingford, donc tout proche du chemin Roxham, dont la liste des victimes de la fermeture par le fédéral continue de s'allonger. L'enquête de la police de l'État de New York nous en apprendra plus éventuellement. On ne sait pas non plus si c'est des gens qui venaient d'arriver aux États-Unis ou qui cherchaient à atteindre le Canada, donc on ne sait pas dans quelle direction ils allaient. Je vous laisse avec une suggestion de lecture, un article assez étoffé de Pivot.Québec dont le titre est « Un an après le chemin Roxham, quel sort pour les personnes migrantes arrivées trop tard » et qui se penche sur les personnes qui sont arrivées au chemin Roxham un peu après sa fermeture. On peut y lire des témoignages de plusieurs personnes, dont des migrants francophones, qui sont parfois arrivés seulement quelques heures après la fermeture officielle, je sais pas comment on peut dire ça, du poste frontière officieux, et dont les plans pour rejoindre des proches au Québec, au Canada, ont échoué. Ils se retrouvent donc parfois seuls, parfois avec enfants, mais toujours en situation de grande précarité, et surtout dans une situation dans l'inconnu complet. Parfois dans des hébergements temporaires, des motels, des gymnases, des campements, dans des petites villes du nord-est américain comme Burlington, Portland, Providence. Donc, je vous invite fortement à lire cet article très intéressant de Xavier Savard-Fournier qui s'appelle « Un an après la fin du chemin Roxham, quel sort pour les personnes migrantes arrivées trop tard? »
Merci Simon, et puis ben on s'en va en musique, vous allez voir que ça va servir de défouloir.
We'll be right back.
On écoutait le groupe punk metal hardcore Gun Toy de Rouyn-Noranda et leur pièce Tueur d'enfants tirée de leur premier album paru en août 2023 et intitulé Glen Corruption en référence à
Glencore.
Et oui, propriétaire de la fonderie Horn. Je cite le groupe. L'album se veut une réponse brutale et sans filtre à l'immobilisme crasse et l'indifférence totale de la corporation, de nos élus et du gouvernement caquiste qui semblent tous se colser éperdument de la santé de la population et de nos écosystèmes. Fermez les guillemets. Je vous parle du groupe un petit peu. Le groupe s'est retrouvé là, récemment dans les médias au début du mois parce qu'il a été désinvité du festival Alien Fest à Lasar. Le festival qui a finalement été complètement annulé, c'était la troisième année, a complètement été annulé par l'organisation, avait pour commanditaire principal l'entreprise Metal Marquis, un fabricant lazarois ou lassarois de pièces et d'équipements métalliques pour les secteurs miniers, forestiers et industriels, vous me voyez venir, et qui compte la fonderie Horn parmi ses clients. Et l'organisateur du festival, Francis Pépin, est lui-même actionnaire de Metal Marquis.
Eh ben.
Je cite un message envoyé au chanteur du groupe Simon Turcotte. Nous sommes un des fournisseurs de la fonderie et c'est exactement là que ça devient sensible. Et donc pour
les petits milieux, hein.
Ouais, et pour Simon Turcotte, qui a lui-même déjà travaillé à la fonderie et qui a été amputé d'une jambe après 5 cancers, il dit ben ça en dit long sur la culture du silence qui règne dans la région. Mais on peut toujours se consoler. On va pouvoir voir Gun Toy sur scène à Montréal le 27 juillet au Cabaret des Foufs.
Oh, ben c'est bien
ça. En tout cas, moi, j'y serai.
Ben oui.
Avant de retrouver Mathieu pour des nouvelles de l'Afrique subsaharienne, un saut en Libye, un saut un peu macabre en Libye, où 65 corps enterrés dans ce qui ressemble à une fosse commune ont été découverts à la fin mars dans le sud-ouest du pays, selon l'OIM. Les autorités libyennes affirment que ces corps-là sont ceux de personnes migrantes. L'OIM partage la même analyse et pense aussi que même si les circonstances et la nationalité de ces personnes restent inconnues, elles seraient mortes alors qu'elles traversaient clandestinement le désert. La zone où les corps ont été découverts est située à mi-chemin entre la capitale Tripoli et la ville de Sabah, qui est une route largement empruntée par les réseaux de passeurs qui transportent des migrants depuis le Niger voisin vers les côtes du nord libyen. Les autorités libyennes ont précisé que des échantillons d'ADN avaient été prélevés sur deux des corps retrouvés et l'OIM a évidemment ouvert une enquête là, pour connaître les causes de ces décès-là. Elle demande aux forces libyennes ainsi qu'aux aux agences partenaires de l'ONU de veiller à la récupération des corps dans la dignité, à l'identification et au transfert des dépouilles d'immigrants décédés vers leurs familles, de les informer aussi les familles et de les aider. Alors, je te cède la parole, Mathieu, pour des nouvelles plus réjouissantes, j'espère.
Oh, faut le dire vite, hein. Écoute, on va commencer avec la Corne de l'Afrique, le Soudan. Ça va vraiment pas bien, Marie-Ève. On a souligné les un an de la nouvelle guerre civile actuelle dans ce pays, ce grand pays africain. Ça a commencé à la mi-mars avec l'ONU qui nous dit que près de 5 millions de personnes pourraient plonger dans une insécurité alimentaire catastrophique dans les prochains mois au Soudan en guerre. Selon donc l'ONU, qui réclame un meilleur accès humanitaire et un cessez-le-feu. Au total, près de 18 millions de Soudanais font face à une insécurité alimentaire grave, non pas catastrophique, il y a des niveaux, là. Mm-hmm. Un chiffre record en période de récolte et 10 millions de plus qu'à la même période l'an dernier, donc au début de la guerre. Une mobilisation massive de ressources de la part de la communauté internationale est également essentielle, alors que le plan humanitaire de l'ONU pour le Soudan en 2024, chiffré à 2,7 milliards, n'est financé qu'à moins de 5% par la communauté internationale. Ça, c'était il y a quelques semaines. Il y a suffisamment de stocks humanitaires, mais l'accès à la population pose problème. L'ONU réclamait la possibilité de circuler à travers les lignes de front et de traverser des frontières des pays voisins. Oui. Au début mars, le Programme alimentaire mondial a tiré la sonnette d'alarme. La guerre pourrait créer la plus grande crise de la faim au monde dans un pays qui connaît déjà la plus importante crise de déplacés
de population interne.
Oui, du globe, ouais. Ben, interne et externe, parce que on parle de 8 millions de déplacés actuellement juste au Soudan à cause des combats depuis un an. Donc, des milliers de morts et plus de 8 millions de déplacés. Le Canada, Amin Hussan, ministre du Développement international, a annoncé la semaine passée une aide de 132 millions de dollars pour les personnes fuyant la guerre civile. Le gouvernement libéral se dit profondément préoccupé par la crise au Soudan, mais il fait l'objet de critiques croissantes pour ne pas avoir suivi d'autres pays qui ont imposé des sanctions à ceux qui soutiennent les chefs de guerre. Ben finalement, lundi, le Canada a annoncé des sanctions contre ceux qui l'accusent d'avoir perpétué la guerre civile au Soudan. 2 personnes sont visées et 4 entreprises. C'est assez timide comme début. Sinon, ben ça, lundi, cette semaine, Marie-Ève, une conférence humanitaire consacrée au conflit au Soudan s'est tenue à Paris. Hein, il n'y a pas juste des Jeux olympiques. Près de 60 États étaient représentés, ainsi que les organisations régionales, les Nations unies, les humanitaires. Finalement, ont été réunis plus de 2 milliards d'euros de promesses, soit la moitié des 4 milliards nécessaires demandés par l'ONU. Dans leur déclaration finale, les participants demandent aux acteurs étrangers de cesser d'apporter un soutien armé ou du matériel aux 2 cas ennemis. Personne n'est nommé, mais plusieurs rapports ont pointé le rôle des Émirats arabes unis, de l'Égypte, du maréchal Haftar en Libye ou encore la complaisance du Tchad pour le transit des armes par la frontière. Les participants se sont néanmoins accordés sur un message aux belligérants. Ils leur ont demandé à nouveau de respecter le droit international, de ne pas entraver le déploiement de l'aide et de cesser immédiatement les hostilités. Antonio Guterres a estimé qu'il s'agissait d'une guerre contre le peuple soudanais, dont les attaques indiscriminées pourraient constituer des crimes de guerre et contre l'humanité. On y va dans le subsaharien, Marie-Ève, on va au Niger. Plus de 1400 Nigériens, donc du Nigeria, fuyant les violences des bandes armées, sont arrivés dans plusieurs villages de la région de Maradi à la frontière avec le Nigeria. Ce déplacement de population, le premier mouvement d'ampleur depuis le début de l'année, fait augmenter les besoins d'aide d'urgence dans la zone. La majorité sont des femmes et des enfants poussés par des violences entre bandes armées et groupes d'autodéfense qui se sont déroulées dans l'état du Sokoto. Les populations ont été sommées de quitter leur maison dans les 72 heures. Le mois dernier, le HCR recensait plus de 62 000 réfugiés nigériens dans la région de Maradi au Niger. Hein? Faut juste
dire, ouais,
c'est ça. C'est des deux pays frontaliers. Sinon, au Niger, on va en reparler aussi, le gouvernement du régime militaire a convoqué l'ambassadeur algérien à Niamey pour protester contre les nombreuses opérations de refoulement de milliers de migrants ouest-africains par l'Algérie vers le Niger, voisin. Alger a intensifié depuis quelques jours ses opérations de rapatriement et de refoulement de personnes noires en situation régulière. De vastes opérations de raves policières sont régulièrement menées dans certains quartiers de la ville de Tamanrasset, où vivent des ressortissants des pays subsahariens, dont de nombreux Nigériens.
Ouais.
Ça fait penser à la Tunisie.
Nigérien,
Niger, ouais.
C'est toujours un peu mélange.
C'est pour ça que j'appuie un peu.
Tu t'appuies bien sur tes voyelles.
Il y a un truc pour ça. Nigeria, ça finit par A, donc c'est Nigérian.
Exactement. Ah oui. Nigérien, c'est Niger. Mais dans les demandeurs d'asile ou les migrants ou les personnes qui se font.
Les exilés.
Les personnes qui se font. Sont obligées de sauver, ils vont dans les deux, dans toutes les directions de toute manière. Là. Ça dépend des périodes. Donc, ce qui se passe en Algérie, c'est un peu comme en Tunisie. Hein? On a beaucoup parlé. Des témoins ont rapporté qu'au cours de ces opérations, de nombreux domiciles ont été saccagés par des éléments de la police algérienne qui saisissaient tous les objets de valeur qu'ils trouvaient sur les lieux. Bon classique. Selon le collectif Alarme Faune Sahara, il faut cesser ces expulsions dans le désert. Il faut que l'Algérie mette en place des vrais retours vers les pays d'origine officiels et organisés et qu'elle cesse de passer par le désert. Ces temps-ci, on arrête les Noirs dans leurs appartements, dans la rue, sur le lieu de travail, sur les terrains de sport. Alger a souvent démenti ses accusations de maltraitance, dénonçant des campagnes d'ONG ou de journalistes malveillantes. Les expulsions de Noirs sont massives depuis plusieurs années. Pour le seul mois de mars 2024, près de 900 personnes subsahariennes ont été expulsées par l'Algérie dans le Sahara, à la frontière nigérienne, une zone appelée « Point zéro ». Les dangers de ces expulsions sont immenses. Les exilés sont généralement abandonnés par les Algériens à la tombée de la nuit. Lorsqu'ils sont lâchés, ils sont livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture. Ils doivent parcourir 15 km à pied pour rejoindre le village d'Assamaka. Chaque année, de nombreux exilés disparaissent aussi sans laisser de traces dans le désert. Ils peuvent se perdre, mourir de déshydratation ou être victimes de groupes mafieux. Donc, voilà. Et en terminant, Marie-Ève, dans un autre sens, plus de 40 000 Burkinabés sont arrivés au Mali depuis décembre dernier. On est dans la même zone, non? Chaque jour, plus de 500 Burkinabés entrent au Mali.
500 par jour?
Oui, par jour. Si tu calcules 40 000 depuis décembre, ça fait à peu près ça. Majoritairement, des femmes et des enfants, ces réfugiés rejoignent Koro, où il y a déjà plus de 25 000 réfugiés qui sont enregistrés officiellement. Certains fuient les attaques terroristes, d'autres les opérations de l'armée burkinabé et de ses supplétifs des volontaires pour la défense de la patrie, formés par des villageois recrutés par l'armée pour contribuer à la lutte antiterroriste. Ça va très bien. Ils sont d'abord accueillis par les populations hautes dans les familles, parce que souvent les autorités du Mali ne sont pas à même de pouvoir répondre aux besoins de ces populations. La communauté humanitaire est malheureusement très peu présente du fait de l'insécurité et il n'y a même pas un camp de réfugiés officiel là, au Mali pour les Burkinabés qui arrivent de l'autre côté. Fait qu'en terminant, ben pour conclure, pour boucler la boucle, ces réfugiés burkinabés ne sont pas à l'abri de recroiser des horreurs. Le centre du Mali est lui-même le théâtre d'attaques régulières des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda et d'opérations de l'armée malienne et de ses supplétifs de Wagner. Donc, voilà, Niger, Mali, Burkina, pour ce qui est du le subsaharien, mais cette région qu'on appelle, Marie-Ève?
Le Sahel.
Le Sahel, merci. Merci, Simon. On retourne vers Simon. Et on a parlé du Soudan, un an d'atrocité, donc... les actualités africaines, Marie-Ève, malheureusement.
Ouais, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire une émission, un long segment sur juste sur les camps de réfugiés, sur la multiplication des camps dans le monde, parce que j'ai l'impression que...
Des déplacés aussi, oui.
Ouais, ouais, c'est ça.
Ouais.
Alors, ben écoutez, on s'en va tranquillement vers l'agenda. Et ces casseroles étaient de bon augure, puisque aujourd'hui, je vous parle que de manif, ou presque. En vue d'ailleurs de la manif du 1er mai, des manifs du 1er mai à Montréal pour souligner la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, organise un teach-in pour soutiller contre les attaques de la police et du système judiciaire. Il y aura des ateliers sur la sécurité dans le cadre d'une manif et sur l'autodéfense juridique, mais aussi un atelier pratique d'autodéfense queer. Et c'est ça samedi 20 avril, là, de midi à 17h à la Shop, au 1800 avenue Les Tourneux, dans Hochelag. Pour l'horaire complet, visitez le site de la CLAC, clac-montréal-net. Non, point net. Pardon,
ouais.
clac-montréal.net. Quant à la journée du 1er mai, comme telle, plusieurs options s'offrent à vous. Il y a la section montréalaise des Industrial Workers of the World, les IWW, dans le cadre de la campagne Écœurée d'être méprisée, qui appelle là, à une grève sociale du 29 avril au 3 mai avec 70 autres groupes. Bref, les WOBS organisent un rassemblement où de la bouffe va être servie à 16h30 au Carré Saint-Louis, métro Sherbrooke, pour ensuite partir en manif à 18h sous le thème « Chômage, aide sociale, salariat, une seule cause, un même combat ». La CLAC, elle, va partir en manif à 19h30 à partir du Carré Phillips sur Sainte-Catherine, métro McGill, sous le thème « Le capital détruit tout, défendons-nous ». Et finalement, la marche de la coalition 1er mai, organisation syndicale, communautaire, étudiante, part, elle, à 18h du parc François Perrault au métro Saint-Michel. D'habitude, les manifs de la CLAC et des WOBS, des IWW se joignent, finissent par former une grosse manif.
Se rejoignent, oui.
Donc, ça devrait être le cas encore cette année. Dernier événement dont je vous parle aujourd'hui. J'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui,
Marielle,
c'est un petit peu fatigant. donc, et qui fait partie là, de la série d'événements qui s'inscrivent dans cet appel à une grève sociale par la campagne Écœurée d'être méprisée. C'est un rassemblement et soupe populaire sous le thème Écœurée d'être méprisée par vos fausses promesses de régularisation. C'est le 30 avril à 16h30 à la Place de la Paix à Montréal, c'est au métro Saint-Laurent. La Place de la Paix, c'est devant le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. Les participants vont donc avoir l'occasion de laisser là, quelques mots sous forme d'écrit pour la chère ministre Frochette. C'est organisé par le collectif Bienvenue, la Clinique de justice migrante, le Centre des travailleurs travailleuses migrantes et le mouvement Action chômage.
Ça, c'est le 30 avril à
16h30. Le 30 avril à 16h30 à la Place de la Paix.
À Montréal.
Métro Saint-Laurent.
Ha 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 ha. Après 4 semaines, on était content de revenir, Maria.
Oui, hein? Ça fait du bien de se retrouver quand même.
On n'avait pas grand-chose à dire, par exemple.
Non, j'avais rien à dire.
Mais oui, c'est déjà la fin des Apatrides Anonymes. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria. 2 fois par semaine, coast to coast. Vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca ou encore sur notre site internet apatridesanonymes.info. Vous pouvez aussi nous écrire, puis faites-le, il n'y a jamais personne qui nous
écrit. Il y en a, m'arrive de temps en temps, mais c'est rare.
Ah, ouais. apatridesanonymes@resist.ca.
Je vais vous écrire.
Et vous pouvez aussi suivre notre page
FB.
Oui, merci à vous deux, mes extraordinaires co-animateurs, Mathieu et Simon.
Merci
à toi. Ça fait plaisir, Marie-Ève. Est-ce que je peux dire une information que j'ai vue ce matin? Dans le budget fédéral de mardi, il avait caché l'information.
Non, que pas les du stock caché.
Que les détentions
oui.
de migrants qui ne peuvent plus avoir lieu dans les prisons provinciales, ils allaient en faire dans les prisons fédérales. Ils ont mis ça dans le document du budget.
Mais c'est vraiment comme un petit alinéa bien caché.
Oui, oui, puis Radio-Canada l'a sorti ce matin. Ouais. Hey! On en a parlé souvent.
Les ratoureux,
oui. Mais pas les ratoureux, les crosseurs, oui, c'est ça, oui. Ouais.
Bon, mais écoute, on va...
On va en parler dans 2 semaines.
Ça
hein?
va nous faire un autre sujet dans 2 semaines. En attendant, on va se laisser en musique avec un sextet de jazz montréalais qui se nomme The Liquor Store, avec la pièce de Getaway Plan. C'est tiré de leur dernier album paru en décembre dernier et lui intitulé Big Band. Il figure à la 8e position du palmarès local de Choc. Et là, c'est vraiment intense. Vous allez voir, intense, c'est pas... Mais c'est vraiment impressionnant parce que le Big Band compte pas moins de 6 saxophones, 4 trombones, 4 trompettes et une section rythmique de 5 instruments, piano, guitare, basse, percussion et batterie. C'est
un gros septet, hein?
C'est à l'origine, c'est un sept. En tout cas, vous avez... Hey, Mathieu Francœur.
Mais live, ça doit être impressionnant.
Ça doit être vraiment très bon. J'ai pas vu de concert annoncé, mais en tout cas, surveillez ça. Je vous rappelle, c'est The Liquor Store avec la pièce The Getaway Plan.
C'est québécois, hein? Donc, c'est ça, ouais.
Oui, j'ai dit que c'était des Montréalais.
Des Montréalais. Mm-hmm. Hey, on se revoit dans 2 semaines, Maria?
Ben oui.
Moi aussi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.